Ok, bonjour à chacun, chacune. Vous allez bien? Ok, ben, je vais bien aussi. C'est toujours bien de le savoir au début, parce qu'après on ne sait plus. Voilà. Grande ma joie aussi d'être là ce week-end avec vous, de partager ce précieux moment que le Seigneur nous donne. Chaque église est vraiment particulière et c'est beau de voir ce que le Seigneur fait. La diversité dans le corps de Christ, la diversité entre nos églises également. Et nous découvrons que c'est dans cette diversité que nous découvrons aussi la créativité de notre Dieu. Vous savez, lorsqu'on n'a pas cette créativité, la diversité peut malheureusement devenir un frein à la vie de Dieu. Ça peut nous plonger dans des critiques, mais lorsque nous avons aussi cette sagesse variée de Dieu, nous arrivons à apprécier la diversité de chaque membre, chacun différent, mais avec un rôle particulier. Et le but final, c'est toujours pour l'édification du corps de Christ. Et encore une fois, c'est ce que j'ai expérimenté au milieu de vous pendant ces quelques jours. Et c'est pour moi encore l'occasion de remercier à cette église, ce précieux corps de Christ, mais aussi à surtout les responsables, pasteur Tony, l'équipe qui est autour de lui pour mener à bien cette vision. Je suis pasteur aussi, je sais ce que c'est. Voilà. Mais je connaissais aussi la provision de Dieu qui nous accompagne et cette particularité du Seigneur d'avoir la main sur ses serviteurs et ses enfants en général. D'accord? Donc, voilà. Et donc, depuis le vendredi, en venant, j'avais demandé un peu de quoi nous pouvons nous entretenir. Et on m'a vraiment laissé ce choix. Donc, en priant, en mettant ce temps devant le Seigneur, j'ai eu cette conviction juste de parler du bouclier. Le bouclier, bien que nous soyons au 21e siècle, on peut me dire, mais qu'est-ce que le bouclier a à voir encore aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus des armes nucléaires, nous parlons beaucoup plus d'autres choses, beaucoup plus sophistiquées. Pourquoi le pasteur veut nous ramener au premier siècle? Mais il y a une vérité spirituelle et ce matin, nous allons juste prier, nous allons continuer dans ce sens. Chaque bouclier est porteur d'une histoire. Chaque bouclier, peu importe sa nature, ça révèle une histoire. Et comme on l'a vu le samedi matin, Genèse chapitre 15, le verset 21, Dieu qui parla à Abraham et il dit, Abraham, sois sans crainte, parce que je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera grande. Et donc Dieu, aujourd'hui, on s'attache beaucoup au don et on oublie le donateur, mais c'est beau de voir que Dieu ne nous propose pas juste un don, mais Dieu se propose à nous. Je suis moi-même ton bouclier. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il nous donne, mais Dieu se donne à nous. Et la Bible dit que Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est Dieu qui s'est donné pour les hommes. Voyez. Et le soir, comme pasteur l'a rappelé tout à l'heure, nous avions vu une autre forme de bouclier dans Psaume 18 où Dieu va parler à David, ou plutôt David qui rappelle le témoignage de Dieu dans sa vie. Alors qu'il a été un roi, il va avoir pendant les 7 premières années de sa vie ou de son règne l'opposition de 10 royaumes qui seront contre lui. Mais pendant 7 ans, David va asseoir son règne, David va confirmer son autorité, David va, si vous permettez l'expression, il va prouver vraiment qu'il était de Dieu. Et après les 7 ans, il va réussir à réunifier le royaume du Nord, les 10 tribus du Nord et les 2 tribus du Sud, ce qui va l'amener à déplacer la capitale de Hébron à Jérusalem. Et donc, en guise de témoignage, David écrit ce psaume en disant... Comment ça s'écrit à le psaume 18, le verset 35. Je veux juste, je pensais l'avoir retenu, mais je réalise que je ne suis qu'un homme. Ouais, voilà, il faut quelqu'un pour m'aider juste à démarrer. Tu me donnes le bouclier de ton salut et ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Le salut vient de Dieu, même si le cheval doit être équipé pour la bataille. On équipe le cheval pour la bataille, mais on réalise que le salut nous vient de Dieu. N'est-ce pas beau ça? Pendant longtemps, j'avais fait... J'aime beaucoup le sport. J'avais pratiqué, entre autres, les arts martiaux du Shotokan, pour ceux qui s'y connaissent. Ceinture noire, deuxième dan, mais on n'est pas là pour se battre ce matin. Donc, rassurez-vous, je suis un homme de paix. D'accord. Et pendant que je faisais ce sport, parce que pour moi c'est juste un sport parmi tant d'autres, pendant que je faisais ça, même dans l'église, les gens ne comprenaient pas, disaient non, il faut marcher par la foi, tu fais le karaté pour faire quoi, et est-ce que Dieu n'est pas assez grand, assez puissant pour te protéger? C'est Dieu qui donne la victoire, c'est lui qui nous fait triompher. Je dis oui, mais il faut équiper le cheval. Je suis juste en train d'équiper le cheval. Je ne dis pas que je vais me battre avec quelqu'un, mais juste j'équipe le cheval et Dieu fera sa part. Et si Dieu veut se servir de son serviteur pour accomplir son dessein, parfois, vous connaissez cette histoire? Un ancien boxeur qui est devenu un prédicateur et il prêche sur la puissance de Dieu et quelqu'un le voit et dit, mais le gars un peu alcoolique, il monte sur le podium, il dit, si ton Dieu est puissant comme tu le prétends, il n'a qu'à venir me faire descendre du pupitre. Le pasteur le regarde, il fait comme ça, pouf, il lui donne un crochet, et il dit, vous inquiétez pas, Dieu se sert parfois de ses serviteurs pour accomplir ses plans. Donc, c'est aussi ça la foi. Bon, bref, on va prier, on va être beaucoup plus sérieux. Ok, Seigneur, je veux juste te rendre grâce ce matin. Pour qui tu es, pour ton amour. Merci pour la croix, l'endroit où tout est accompli et l'endroit où tout s'accomplit encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous aimons la croix, c'est pourquoi nous la chérissons. Et ce matin, nous voulons juste regarder la croix, l'expression de ton amour pour nous. Alors que tu nous déclares qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, cachés en toi. Alors viens ce matin, apaise les cœurs troublés, réponds à nos questions. Et amène-nous à faire un pas encore plus, un pas de plus ce matin, au travers de la puissance de ta prédication. Je prie ce matin aussi pour l'église au Bénin, pour ce qui se vit, ce qui se fait là-bas. Nous prions pour nos frères et sœurs. Merci d'intervenir dans nos vies. Et tu sais de quoi nous sommes faits et ce dont nous avons besoin ce matin. Reçois l'honneur, la gloire. Merci Jésus. Amen. Alors ce matin, pour continuer dans ce même sens sur le bouclier, donc le thème que nous sommes en train de voir, c'est mon bouclier, mon histoire, ou bien un bouclier, une histoire. Et comme je le disais, chaque bouclier est porteur d'une histoire. Et ce matin, je vous propose un passage dans un roi chapitre 4 à partir du verset 25. Un roi chapitre 14. Du verset 25 au verset 28. Donc, en roi chapitre 14. Oui, 14. Merci beaucoup. En roi chapitre 14, verset 25 au verset 28. Et là, il est écrit. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Merci pour la technologie. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Oula, là, ça commence mal. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Le verset 28, « Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis ils les rapportaient devant la chambre des coureurs. » Amen. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans cette histoire? Juste pour nous situer un peu le contexte et essayer de faire des applications pour notre vie aujourd'hui, Parce que pour moi, le plus important, bien sûr, c'est de comprendre le contexte. Mais aujourd'hui, moi, j'ai besoin de vivre. J'ai besoin de comprendre la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu n'est plus vivante pour moi aujourd'hui, ben alors c'est que je suis vraiment perdant. Donc, en s'approchant de la parole de Dieu, le but, c'est de découvrir, c'est de recevoir la vie. C'est pas juste de garnir, de remplir notre tête. Non. Sinon, les pharisiens savent bien le faire. Mais Jésus va leur dire, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures et vous faites bien parce que vous pensez trouver la vie dans les Écritures. Mais le problème, c'est que vous ne venez pas à moi pour recevoir la vie. Comme quoi, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Je peux étudier la Bible. La preuve, c'est que dans nos universités, nous avons des facultés de théologie qui est même la théologie qui est enseignée même par les professeurs qui ne sont même pas chrétiens. Mais ils ont la connaissance de ce que c'est que la théologie. Et donc, c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie en elles. Mais le problème, c'est que la vie n'est pas là. La vie est dans une personne. Et c'est lorsque vous découvrez cette personne au travers des Écritures, alors vous pouvez maintenant être vivifié. Donc, chaque fois que je m'approche de la Bible, pour moi, ce qui importe le plus, ce n'est pas trop la connaissance intellectuelle. Bien sûr, il y a ce côté, mais si cette connaissance ne peut pas m'amener à avoir une intelligence renouvelée, alors je risque d'avoir une intelligence corrompue, des émotions corrompues, et mon âme ne sera jamais satisfaite. Vous voyez ? Donc, s'approcher de la parole de Dieu, mais pour être vivifié. Et donc, dans cette histoire de 1 Roi, chapitre 14, que nous venons de lire, il est question d'un roi, il s'appelle Shishak. D'accord. Ce roi Shishak, je vais vous donner tout à l'heure la définition de son nom. Mais est-il que depuis des années, Shishak observait le royaume d'Israël et il voyait tout ce qui se faisait. Il a su les trésors qui étaient dans ce royaume. Et déjà, son nom Shishak, ça veut dire avide de fin lin. Avide de fin lin. Quelqu'un qui a soif des choses précieuses. Quelqu'un qui désire les choses de valeur. Quelqu'un qui sait reconnaître et son désir, c'est de posséder ces choses. Shishak ne va pas s'attaquer à n'importe quoi. Shishak sait comment retrouver les choses, comment reconnaître les choses de valeur. Et vous savez, ce Shishak en question qui est le roi de l'Égypte, et lorsque nous étudions la parole de Dieu, l'Égypte dans la Bible est un symbole souvent du monde. Et son roi est le type, c'est juste pour ceux qui ont fait le cours sur la typologie, c'est juste un type de Satan. Je ne dis pas que le roi de l'Égypte est Satan. Je dis c'est un type de Satan. D'accord ? Parce que nous faisons souvent, on relève des caractéristiques et on arrive à cette conclusion. Et du coup, le roi de l'Égypte, le roi de ce monde, le diable et ses démons, ils savent aussi, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, ils savent les choses qui font partie de nos valeurs. Ils savent les choses précieuses que Jésus-Christ nous a données. La belle preuve, c'est que dans 1 Pierre, la Bible nous parle des précieuses promesses que nous avons reçues de la part de Dieu. Et lorsque Shishak vient, c'est-à-dire le roi de ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à tout ce qui est précieux. Il s'attaque à tout ce qui est de la valeur. Le diable ne viendra jamais vous tenter sur un point où vous n'avez pas de conviction, où vous n'avez pas de quelque chose qui n'est pas de valeur dans vos vies. Si je ne crois pas, imaginons que je crois comme je le crois, qu'un homme se marie avec une femme, pas avec 10 000, pas avec un homme, mais un homme se marie avec une femme, vous savez, c'est une conviction. En tout cas, pour moi, c'est une conviction personnelle. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le diable ne viendra pas me tenter avec autre chose. Il viendra parce qu'il va vouloir s'en prendre à cette conviction. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer la possibilité peut-être d'avoir une deuxième femme, une troisième. Il va créer la possibilité peut-être d'avoir d'autres choses. Pourquoi? Parce que ce que j'ai entre ma main, c'est quelque chose, ça représente une valeur pour moi. Donc, il viendra s'attaquer à cette valeur. Je crois par exemple à la vie de la prière. Je pense qu'un chrétien doit avoir une relation, une intimité avec le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Shishak ne viendra pas voler n'importe quoi. Il viendra s'en prendre à cet objet de valeur, à cette vie de prière-là. En faisant quoi? Parfois, ben, tu te lèves pour prier, subitement, tu n'as plus envie de prier, et tu fais l'effort quand même, tu t'y mets, et bizarrement, c'est ton téléphone qui sonne, c'est le cousin, l'oncle que tu n'as plus vu depuis des années, c'est lui qui t'envoie un texto, c'est lui qui fait ceci, et puis tu dis, ah, mais tiens, Dieu fait bien les choses. Ah non, c'est Shishak. C'est Shishak qui veut juste te distraire de ta vie de prière. C'est Shishak. Il vient, il est avide de fin lin. Et nous savons que dans la parole de Dieu, le fin lin est souvent recommandé. Lorsque vous lisez les lois lévitiques, on voit qui peut porter du fin lin. Joseph, entre autres, l'habit que son père lui avait donné, cet habit multicolore, est un habit de fin lin. Et lorsque Joseph va accéder à la position du premier ministre en Égypte sous Pharaon, l'habit royal que Pharaon va lui donner, c'est un habit de fin lin. Donc quelque chose de précieux, quelque chose de magnifique. Et Shishak est avide de fin lin. Et il vient aussi parfois dans l'église. Il voit qu'est-ce qui fait que l'église tient le coup. L'église tient le coup parce que c'est une église basée sur la parole de Dieu. C'est une église qui élève la parole de Dieu. Et vous savez ce qu'il va faire? Shishak va s'attaquer à la parole de Dieu. Peut-être il va permettre même que dans l'église, peut-être que les gens interprètent mal la parole de Dieu. J'étais à Paris, je crois, il y a quelques semaines, je parlais un peu de ça, où le roi Salomon devait rendre son tout premier jugement. Et qu'est-ce qui se passe? Ces deux femmes venaient devant le roi et un enfant, les deux ont des enfants, l'une a perdu son enfant et il reste un enfant vivant. Personne ne réclamait l'enfant mort, mais les deux réclamaient l'enfant vivant. Et Salomon, dans sa sagesse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais apportez-moi une épée. On lui apporta l'épée et Salomon dit, coupez l'enfant en deux et donnez-en une partie à chacune des femmes. En d'autres termes, tuez l'enfant. Dans Éphésiens chapitre 6, nous voyons que la parole de Dieu est appelée aussi l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le but de Salomon, le but premier de Salomon, le but réel de Salomon n'est pas de tuer l'enfant. Salomon observe, le gars prend l'épée, Salomon est vigilant, il regarde, on soulève l'épée, il regarde la main de la personne, il regarde les deux femmes, Salomon veut discerner quelque chose. Et il dit, mais coupez l'enfant en deux. Et le bourreau monte l'épée et la vraie mère ne peut pas supporter la mort. La vraie mère ne peut pas supporter la division. La vraie mère ne peut pas supporter qu'on partage l'enfant. Et là, la vraie mère dit, non, ne le tuez pas. Et là, qu'est-ce que Salomon fait? Salomon dit d'arrêter. Et dit, mais remettez-lui l'enfant parce que c'est elle la vraie mère. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors que la deuxième femme dit, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, tuez l'enfant. Il ne sera ni à moi, ni à elle. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous avons malheureusement des gens qui aimeraient que la parole de Dieu soit mal interprétée. L'épée de l'esprit soit mal utilisée. Et on utilise la parole de Dieu comme du légalisme. On utilise la parole de Dieu pour mettre un fardeau sur les gens. On utilise la parole de Dieu pour pousser vraiment les gens à ce à quoi Dieu ne les appelle pas. Alors que Christ est venu nous affranchir, combien aujourd'hui sont encore sous le poids du légalisme, la parole de Dieu mal interprétée. Comme l'a chanté quelqu'un, on tue dans la maison de Dieu les enfants de Dieu au nom de Dieu. Même si ce dernier n'est pas du tout chrétien, mais ce chant est quand même vrai. Dans la maison de Dieu, on tue les enfants de Dieu au nom de Dieu. Et c'est ce que les pharisiens faisaient, ils mettaient vraiment un fardeau sur les gens. Et l'apôtre Pierre l'a dit dans Actes chapitre 15 pendant le concile de Jérusalem. Il dit quoi? Il dit, comment se fait-il qu'aujourd'hui encore vous voulez mettre un fardeau sur les gens? Un fardeau que ni nos pères ni nous n'avons pas pu porter. Et l'apôtre Jean dira, les commandements de l'Éternel ne sont pas du tout pénibles. Mais combien aujourd'hui la parole de Dieu est mal utilisée, la parole de Dieu est mal interprétée, on ne voit pas du tout le cœur de Dieu. Ce qui devait être un joug léger pour nous, ce qui devait être un joug doux pour nous, devient un fardeau. Ça devient un fardeau. Et si on n'a pas compris cela, même pour certaines personnes, venir à l'église peut être un fardeau. Pour certaines personnes, prier peut être un fardeau. Oh, je dois prier. Et pourquoi? C'est un devoir chrétien. C'est mon devoir évangélique. Oh, il faut que je lise la Bible, c'est ma croix. Non, lire la Bible n'est pas ma croix. C'est un privilège de lire la Bible. C'est un privilège de prier aujourd'hui. C'est juste pour un temps. Parce qu'un jour viendra, je n'aurai plus besoin de lire la Bible. Un jour viendra, je n'aurai plus besoin de marcher par la foi. Un jour viendra, je n'aurai plus besoin de prier parce que je serai dans la félicité éternelle. Nous serons dans sa présence. Donc aujourd'hui sur la terre, c'est un privilège de marcher par la foi. C'est un privilège de vivre en espérance. Et demain, nous serons dans notre espérance, il n'y aura plus rien à espérer. Il n'y aura plus rien à espérer. Et Shishak, le roi de l'Égypte, sait que ces choses sont des choses de valeur pour le christianisme aujourd'hui. Ce sont des convictions que nous avons reçues de la croix, et Shishak vient pour nous tenter sur ces genres de choses, pour nous voler la communion fraternelle, pour nous voler la vie du corps, pour nous voler la douceur, les fruits du Saint-Esprit. Et au lieu de marcher selon l'esprit et nous n'accomplirons point les désirs de la chair, qu'est-ce qui se passe? Shishak nous propose d'autres choses. Hier soir, nous disions dans notre temps que dans chaque situation que nous traversons, il peut y avoir plusieurs possibilités, mais la solution, elle est unique. Juste une solution, c'est Jésus-Christ. Dans chaque situation, vous avez plusieurs possibilités. Vous voulez, vous pouvez faire ça, vous voulez, c'est plein de possibilités. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une solution, c'est la solution. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Je suis le chemin, l'exclusivité. Il n'est pas dit, je suis l'un des chemins. Je suis le chemin, je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Mais si vous me dites, oui, mais moi je connais les gens qui sont allés au Père sans Jésus, où je connais des gens qui iront au Père sans Jésus, alors parlez-moi de ce Père-là. Donc c'est qu'on ne parle pas du même Père. C'est qu'on ne parle pas du même Père. Sinon, le Père dont moi je parle me dit, nul ne viendra à moi si ce n'est par Jésus-Christ. Maintenant, si toi, tu penses que tout chemin mène à Rome, et tu passes par notre chemin pour aller vers le Père, bon, dis-moi de quel Père? Le Père de ce monde? Peut-être que c'est l'enfer, il faut revoir l'adresse. Peut-être c'est ailleurs, il faut revoir l'adresse. Vous voyez? Donc, Shishak discerne les choses, les convictions que nous avons. Shishak discerne les valeurs que nous avons. Shishak observe et il voit les choses, les précieuses promesses de Dieu. Dieu a donné une précieuse promesse à Abraham. C'est que Abraham, je te bénirai. Genèse chapitre 12, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Et cette bénédiction tarde. Et Shishak va s'attaquer à cette promesse de Dieu. Alors que Abraham avait reçu cette promesse dans les soixantaines d'années, je crois, ça va tarder jusqu'à 100 ans. Plus de 20 ans, plus de presque 30 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? Shishak va venir au travers de sa femme, au travers de la bouche de sa femme, et il va dire, tu sais quoi? Abraham, on va aider Dieu. Peut-être que Dieu a pris de l'âge, peut-être que Dieu souffre d'Alzheimer, il ne se souvient plus de ce qu'il avait promis, mais on va l'aider. Tu sais, je te propose ma servante Agar. Tu iras vers Agar et on va accomplir la promesse que Dieu nous a faite. Là, on n'a pas besoin d'aider Dieu. Pasteur l'a dit tout à l'heure, nous avons besoin juste de coopérer avec Dieu. Au lieu de coopérer avec Dieu, Sarah a voulu aider Dieu. Et on a encore les conséquences aujourd'hui. Abraham est allé vers Agar et ils ont eu un enfant, il n'y a pas de souci. Sauf que Dieu va revenir plus tard dans Genèse chapitre 22, alors que Isaac aussi sera né. Et Dieu va parler à Abraham et va dire, sacrifie-moi ton fils. Celui que tu aimes tant, ton unique. Mais Abraham n'a pas un fils unique. Et Dieu, où est Ismaël? Mais Abraham dit, Dieu plutôt dit, ton unique. Non, Abraham, Isaac, c'est le fruit de tes efforts. Abraham, c'est toi qui as fait Isaac, ce n'est pas moi. Abraham, ce n'est pas Isaac que je t'ai promis, mais c'est... plutôt, ce n'est pas Ismaël que je t'ai promis, mais c'est... excusez-moi. Ce n'est pas Ismaël que je t'ai promis, mais c'est Isaac. Isaac, et plutôt Ismaël, c'est le fruit de tes efforts. Ce n'est pas le fruit de la promesse. Donc, dans la vision de Dieu, Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Vous savez, ce verset me parle beaucoup parce que ça montre aussi que parfois... Dieu, quand il pardonne nos péchés, Dieu ne les voit plus. Dieu ne les voit plus. Il les jette dans la mer la plus profonde et il ne s'en souvient plus. Ouais, mais Dieu et Ismaël, non, ton unique. Mais Dieu et le frère, ce qu'il a fait hier, non, hier est passé, aujourd'hui. Je suis celui qui suis, l'éternel présent. C'est ça aussi. N'est-ce pas beau ça? Et Shishak vient, il va dire non. C'est pas possible le pardon. Et il s'attaque à ça. Non, tu ne peux pas pardonner cela. Il est avide de faim. Tu ne peux pas pardonner cela. Il faut l'écrire dans ton journal. Ben, on a tous des cahiers. Je me rappelle de mes enfants quand ils étaient un peu plus jeunes. Là, j'ai deux filles, l'aînée a 19 ans et la petite a 15 ans. Et l'aînée avait son cahier journal. Elle écrit des choses dedans avec une clé. Et elle ferme bien, elle garde la clé. Et la petite veut voir qu'est-ce qu'il y a dans ce cahier. Et l'aînée cache toujours la clé. Et le jour où la petite a trouvé la clé, elle dit, OK, on va finir avec ce cahier journal. Ce n'est pas un cahier de foi. Elle prend la clé, elle jette la clé. Alors que le cahier est déjà fermé. La grande sœur vient le lendemain, elle trouve son cahier, elle cherche la clé pour écrire. Mais le cahier est fermé. Le livre est scellé. Et personne n'est dit d'ouvrir le livre. Imaginez deux sœurs dans la maison. Ah oui. Où est ma clé? Et j'aime bien l'autre. Regarde, je l'ai jetée par la foi. Je n'aimerais pas avoir une petite sœur comme ça. Par la foi, je l'ai jetée. Bon, bref. Donc, on note les choses, on retient tellement. Et Dieu dit non, pardonne, libère. Et Shishak vient dit non, tu peux pas, c'est pas possible. Et il nous vole cet esprit de pardon. Et il nous vole cet amour. Et il nous vole tellement de choses. Et donc, Shishak regarde et il est dit la cinquième année du règne de Roboam. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Et il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. On parle des boucliers. Ici, qu'est-ce qui se passe? Salomon, dans toute sa sagesse variée, il a fait des boucliers. Des boucliers pour protéger son armée, même s'il n'a pas fait vraiment de guerre. David a fait des boucliers en or. Et Salomon, lorsqu'il vient aux affaires, il va faire plus de 6000, j'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, plus de 6000 boucliers d'or. Il veut équiper son armée. Il veut, et puisque le roi à l'époque était en même temps, s'il faut parler un langage un peu plus moderne, je dirais qu'il était aussi en même temps le ministre de la Défense. Donc il protégeait son armée, il allait lui-même aussi à la guerre avec. Et donc Salomon avait fait des boucliers, mais en or, tellement précieux, l'or qui part de la gloire de Dieu. Donc dans les batailles, la gloire de Dieu est mise en avant. Dieu, glorifie-toi dans cette bataille. Dieu, la bataille t'appartient. Ce n'est pas une bataille d'hommes. Nous ne combattons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés. Seigneur, tire ta gloire. Et les boucliers en or parlent. Et voilà que Shishak va venir. Il va prendre tout ce qui est dans la maison de l'Éternel. Et il ira dans la maison du roi Roboam. Et il va prendre tout. Et regardons ensemble le verset 27. Roboam, le fils de Salomon, il n'a plus la substance, la force nécessaire pour partir à la bataille, pour poursuivre Shishak. Et qu'est-ce que Roboam va faire? Au verset 27, il nous dit, le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. Voilà quelqu'un qui ne veut pas combattre. On parlait hier soir de David qui parlait à Dieu et disait, mais tu me donnes le bouclier de ton salut. Et une des choses qu'on disait, c'est que si Dieu se permet de nous donner un bouclier, bah, ce n'est pas pour aller faire la grâce matinale. Si Dieu vous donne un bouclier, ce n'est pas pour aller dormir. Non, si Dieu se permet de nous remettre un bouclier, c'est parce qu'il sait que nous sommes dans une bataille. C'est parce qu'il sait que nous sommes dans un combat. Et en d'autres termes, Dieu, en nous remettant le bouclier entre nos mains, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Et Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 7, qu'est-ce que Pierre va nous dire? 1 Pierre chapitre 1, le verset 7, il nous dit que afin que votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc dans ce verset, Pierre est en train de nous dire que notre foi, c'est un bouclier en or. Notre foi est plus précieuse que l'or. Et l'apôtre Paul dira dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, que notre foi, c'est du bouclier. Donc, en résumé, lorsque je prends Éphésiens 6, le verset 7, lorsque je prends Éphésiens 6, le verset 16, et 1 Pierre chapitre 1, le verset 7, j'arrive à cette conclusion que ma foi, c'est un bouclier en or. La foi, c'est juste c'est un bouclier que Dieu nous a donné. Ce n'est pas ma foi, mais c'est sa foi. Il nous a donné sa foi. Et avec sa foi, nous avons foi en lui. Avec sa foi que nous avons reçue, nous croyons en lui. Ce n'est pas un bouclier qu'on se fabrique nous-mêmes. Non, il nous a donné à tous une mesure de foi. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Il nous a donné tous une mesure de foi. Et c'est une foi qui vient de Dieu. Ce n'est pas une foi que nous fabriquons, non. Soit vous recevez de Dieu cette foi, ou vous ne la recevez pas du tout. Donc, cette foi est de l'or. Cette foi est de l'or. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Shishak vient, il regarde cette foi, alors que Dieu nous demande de marcher par la foi, lui va s'attaquer à la vie de foi, et il nous propose plutôt de marcher par la vue. Et aujourd'hui, de plus en plus de chrétiens marchent par la vue. On est dans ce système. On marche par la vue, on calcule les choses, on réfléchit. Je ne dis pas que au nom de la foi, il ne faut plus réfléchir. Non, je n'ai pas dit ça. Comme l'a dit quelqu'un, un érudit de la parole de Dieu, la foi sans la science est boiteuse, mais la science sans la foi est aveugle. D'accord? Donc, il faut combiner les deux. J'ai parlé tout à l'heure de l'intelligence renouvelée. La foi nous amène à réfléchir. La foi nous amène à comprendre certaines choses. L'intelligence renouvelée. D'accord? L'intelligence n'est pas contre la foi. L'intelligence, lorsqu'elle est renouvelée, elle est au service de la foi. Sinon, comme on le disait hier, ce serait de la pure folie. Et la foi et la folie ne sont pas éloignées l'une de l'autre. Elles sont séparées que de deux lettres. Écrivez l'orthographe, vous allez voir les deux lettres là. D'accord? La foi et la folie. Bon, bref. Donc, Shishak vient et s'attaque à ce qui est précieux. Il s'attaque à notre foi. Il vient voler la foi. Et tout ce qu'on fait, c'est juste pas des calculs humains. Et Dieu dit non, non. Et Roboam, au lieu de faire comme son père David, qui avait la substance, tout ce qu'il faut pour fabriquer ses boucliers, Roboam, lui, n'a plus de force, il n'a plus de substance. Et il va dire, bon, on va faire autre chose. Shishak a tout pris, c'est pas grave. On va fabriquer d'autres boucliers, mais des boucliers en airain. On n'a plus l'énergie nécessaire, on n'a plus la richesse nécessaire pour combattre le combat de nos aînés dans la foi, les pères de l'Église. On parle de Calvin, on parle de Martin Luther, des gens qui ont lutté pour conserver cette foi, des gens qui se sont levés contre les hérésies, qui ont fait leur preuve. On n'a plus la force nécessaire pour faire comme Calvin et les autres. Mais ce qu'on va faire, on va juste garder l'apparence. On va juste garder. Oui, donc, c'est juste un bouclier aussi. C'est juste un bouclier. Mais le problème, c'est que nous passons de bouclier d'or en bouclier d'airain. Et l'airain, dans la parole de Dieu, parle du jugement. Ça ne doit pas nous étonner. Lorsque l'Église, aujourd'hui, on se juge. On juge les uns les autres. On se critique les uns les autres. On est passé de la gloire à un jugement. On est passé de la gloire de Dieu à la gloire de l'homme. Dans le couple, on ne peut plus voir la gloire de Dieu dans l'autre. On veut se réaliser plutôt au travers de l'autre. Les parents, ouais, ils ont voulu faire telle chose dans leur vie, ils n'ont pas pu. Et du coup, ils veulent se réaliser aujourd'hui au travers de leurs enfants. Je peux me rappeler de cet ami que j'avais, un frère. En tout cas, lui, il voulait être un mécanicien. À réparer les voitures, les camions, il aime l'huile sale et tout ça là, ça le passionnait. Et son père dit, non mon fils, tu dois être un docteur, il faut faire honneur à tes parents. Le fils a tout fait, il a tout fait, le père dit non, docteur. Il a fait ses études de médecine, jusqu'au doctorat et tout, et tout, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Et il prend le diplôme. Un matin, il visite son père et il lui remet le diplôme et dit, j'ai reçu ce diplôme pour toi. Prends-le et maintenant, moi, j'irai faire ma mécanique. Tu veux devenir docteur? Ben, voici le diplôme, je l'ai eu pour toi. Ben, il est parti. Des années de vie perdues. Juste parce qu'un papa voulait se réaliser au travers de ses enfants. Et les enfants ne sont plus eux-mêmes, ils perdent toute authenticité, ils sont juste devenus la photocopie des parents. Et malheureusement, nous pouvons aussi être juste une photocopie de la société, alors que nous parlons de la liberté d'expression. Aujourd'hui, on se sert tellement de ça. Oui, liberté d'expression, j'ai le droit de parler, de m'exprimer, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sous le couvert de la liberté d'expression, c'est juste de la calomnie aujourd'hui. On calomnie nos dirigeants, on parle en mal des gens, on fait telle chose sous prétexte que c'est la liberté d'expression. Non, c'est juste de la calomnie, c'est tout. Oui, on parle, oui, c'est du bouclier, mais on est passé du bouclier d'or au bouclier d'airain. C'est juste de l'airain. La forme bouclier est toujours là, mais la substance n'est plus là. Ce qui en fait la force n'est plus là. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans nos amitiés, dans nos relations, que ce soit dans l'église. On peut juste avoir un programme ou des programmes, mais il n'y a plus de vie dedans. On fait un programme parce que l'autre église le fait. On fait telle chose parce qu'on le fait de l'autre côté et on est juste une photocopie de la religion. Il n'y a plus de vie. Et c'est pourquoi lorsque Jésus-Christ va venir en Israël, il va parler aux pharisiens, il va parler aux gens, il va dire, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. C'est-à-dire, les gens vont prendre les lois de Dieu, les gens vont prendre ce qui était de Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça n'aura plus de vie de Dieu. C'est comme vous prenez, je donne souvent cet exemple parce que ça me convient très bien, c'est comme vous prenez un verbe à l'infinitif. Le verbe manger, dormir, sauter, vous mettez tous ces verbes à l'infinitif. Un verbe à l'infinitif, ça ne sert à rien. Un verbe est fait pour être conjugué. Si vous ne pouvez pas conjuguer les verbes, vous les gardez tous à l'infinitif. Ça n'a aucun sens. Hier, je mangeais, ER. Ah non, on va dire non, ça ne se dit pas, mon frère. Non, il faut conjuguer ça au passé. Il faut conjuguer ça au présent, au futur, à l'imparfait, au plus que parfait. On change de temps à l'indicatif, au subjonctif. Voilà, il y a des modes. Il y a des temps, il y a les modes. C'est ça, c'est comme ça qu'un verbe trouve la vie. C'est comme ça qu'on vit un verbe. Mais parfois, lorsqu'on passe de bouclier d'or au bouclier d'airain, on a juste notre vie qui est remplie de verbes à l'infinitif. Et c'est ce que Jésus disait. Vous avez appris qu'il a été dit, mais je ne suis pas venu abolir la loi. Je ne suis pas venu annuler la loi. Mais je suis venu pour les accomplir. En d'autres termes, je suis venu vous aider à conjuguer tous ces verbes à l'infinitif. Je suis venu vous aider à faire la conjugaison, pour rendre la vie à ces verbes-là. Vous voulez les garder à l'infinitif? Non, ce n'est pas possible. Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, je vous donne l'esprit de la loi, je vous donne le cœur qui est derrière cette loi-là. Et les pharisiens ne vont pas du tout aimer ça. Ils ne vont pas du tout aimer ça. Donc, le bouclier d'or, la gloire de Dieu, le bouclier d'airain, le jugement. Et qu'est-ce qui se passe? Plutôt, Roboam va dire non, on fait d'autres choses à sa place. Il ne va pas du tout combattre. Il ne va pas combattre. L'apparence est toujours là. Et Paul va nous dire, il y a des gens, ils ont juste l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et vous savez ce que Paul va dire à Timothée? Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi d'eux. Tu ne peux pas être leur ami. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont le mot Alléluia à la bouche, mais non plus ce qui fait la force. Oh, ils lèvent leurs mains, ils adorent Alléluia à l'église, mais non plus ce qui en fait la force. Surtout dans notre génération de téléphones, de ceci, et on est à l'église, qu'est-ce qu'on fait? Le gars, il est en train d'adorer, mais il veut montrer à tout le monde sur les réseaux sociaux qu'il est en train d'adorer. Et il prend son téléphone, il fait selfie. Alléluia. Vous pensez qu'il adore? Non, il n'adore pas du tout. Et il veut se filmer pour qu'on le regarde sur les réseaux sociaux. Oh, qu'est-ce que le frère, il adore. Il est rempli d'Esprit Saint. Il est débordant d'onction. Il déborde rien du tout. Rien du tout. Le pasteur qui est en train de faire une guérison, il prie pour quelqu'un pour guérir. Et on amène le caméraman qui vient vraiment pour zoomer sur ça. Quelle onction vous me parlez? Non, Jésus-Christ, il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait rien pour attirer nos regards. La Bible l'a appelé homme de douleur habitué à la souffrance. Mais aujourd'hui, les pasteurs sont beaucoup plus comme des vedettes. Ils sont comme des vedettes. Allez, on va faire des choses, allez voir. Abracatabran, et puis ben voilà, les choses qui se passent. Et on filme ça, on monte et dit, oh, qu'est-ce qu'il est débordant ce pasteur, il est oin. Oin de quoi? Par qui? Et pourquoi? Non, désolé. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils n'ont plus la substance. Vous savez, une des histoires, je finis avec ça, de David. On a parlé beaucoup de David. David, c'est un guerrier. Il sait ce que c'est qu'un bouclier. Un jour, David s'est fait attaquer et il est parti à l'attaque contre l'ennemi et il a laissé les femmes et les enfants. Il est parti avec 600 hommes. D'accord? 600 hommes. Et ils sont revenus avec la victoire. Et pendant qu'ils reviennent, ils ont réalisé que non, l'ennemi était passé derrière eux. L'ennemi a enlevé les femmes et les enfants. Et David est revenu avec son armée dans un village où il n'y a plus personne. Il se retrouve avec ses hommes. Et ces hommes étaient tellement en colère contre David qu'ils ont dit, mais David, aujourd'hui là, on va te faire la peau. Et David sait que ces hommes-là, c'est des loups, c'est des lions vraiment indomptables. Et les 600 hommes se sont retournés contre lui. On va te faire la peau. David sait ce que c'est. Il a tellement peur. La Bible dit qu'il était dans une grande angoisse parce qu'il connaissait bien ces hommes. Et David va réfléchir, va dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Il était presque même déprimé et David va consulter le Seigneur. C'est une des choses qui faisait sa force. Il va consulter le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous savez ce que Dieu va lui dire? Dieu va lui dire, pars en guerre. Ne fabrique pas de bouclier en errant. Ne va pas chercher une autre femme. Ne dis pas, non, on va faire d'autres enfants. Non. Pars, va récupérer ce que Shishak t'a pris. Et David dit, Seigneur, et si je pars, est-ce que tu me donneras la victoire? Dieu dit, oui, tu auras la victoire. Et la Bible nous dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et c'est ce verset que nous avons. Le verset 6, déjà, il nous... On prend partie du verset 8, le verset 8, verset 8 et 9. Il est écrit, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? Et l'Éternel lui répond, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Le verset 9, et David se mit en marche. Je crois que l'Éternel veut parler à quelqu'un ce matin. Peut-être que Shishak était passé dans ta vie, il a volé la joie de vivre, il a volé les fruits du Saint-Esprit, il a volé l'amour fraternel, l'amour pour tes enfants, l'amour pour le conjoint. Peut-être que Shishak était passé, il a enlevé les choses précieuses, tu n'as plus le goût de lire la Bible, le goût de venir même à l'église, il a tout pris. Mais Dieu veut parler à quelqu'un ce matin comme David. Et David se mit en marche. Et Dieu veut dire à quelqu'un ce matin, lève-toi. Lève-toi de la cendre. Mets-toi en marche. Mets-toi en marche. Lève-toi. Et David se mit en marche. Et les 600 hommes qui étaient avec lui. Vous savez, c'est beau de voir qu'on ne fait pas cavalier seul. David se lève. Et ces hommes étaient impressionnés par le courage de David. Et ceux qui parlaient de lui faire la peau vont se joindre à lui pour récupérer ce que l'ennemi avait volé. Et c'est ça le leader. Là où tout le monde est découragé, tu les inspires mais n'as pas ton courage. Tu dis non, allez ça va aller. Là où personne ne veut aller, tu dis mais on y va. C'est pas juste allez-y, mais c'est allons-y. Beaucoup parlent comme ça souvent, allez-y, allez les chercher. Non, c'est allons les chercher, les perdus. Et c'est ce que Pasteur Tony fait, n'est-ce pas? C'est pas juste, ouais, aujourd'hui, il y a un temps d'évangélisation. Allez-y, que le Seigneur vous bénisse. Non, c'est allons-y. Et il est devant. Ben voilà, et on suit. C'est ça, au fait. Alors qu'on se lève, les 600 hommes nous suivent. Nous prenons notre responsabilité et l'Église, le corps est là pour nous accompagner. Les 600 hommes sont là pour nous accompagner. Et c'est comme ça que nous récupérons ce que l'ennemi a volé. Amen. Et les 600 hommes qui étaient avec lui. Et ils arrivèrent au torrent de Bézor où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. Mes frères et sœurs en Christ, le désir de l'Éternel, c'est que ce que tu vis maintenant n'est pas une fin en soi. J'aimerais parler au cœur de quelqu'un. Ta situation présente n'est pas une fin en soi. Mais on peut récupérer. Tu peux retrouver la joie de vivre. Ça ne sert à rien de dire, oh, les temps d'avant étaient bons. La Bible dit, ce n'est pas par sagesse qu'on dit ça. Que autrefois était mieux. Non, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Oui, autrefois c'était bien. Il n'y a pas de souci. Mais demain sera encore mieux. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Oh, on n'est pas encore à la fin. Aujourd'hui, je pense que je vis le meilleur. Mais aujourd'hui n'est rien comparé à ce que Dieu a préparé pour moi pour demain. Donc là, je vais chercher encore la fin. Je serai demain. Non, ce n'est rien par rapport à demain après. Après demain, on va continuer. On va continuer. On va rattraper Shishak. On va lui prendre ce qu'il nous a volé. Et dans le livre de Proverbes, il est dit, lorsqu'on attrape le voleur, il rend 7 fois ce qu'il avait volé. Et la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Waouh, waouh. Ne changeons pas de bouclier. Je finis avec ça. Ne changeons pas de bouclier. Pas de bouclier d'airain. Reprenez votre bouclier en or. Parce que c'est des boucliers qui ont traversé les âges, qui ont eu des expériences, qui ont vu la victoire que Dieu a donnée. Tu étais faible, mais comment Dieu t'a encouragé? Comment Dieu t'a soutenu? Et lorsque les hommes de David vont revenir de la guerre, ils vont revoir leur bouclier. Ils vont dire, waouh, bouclier d'or. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Comme j'étais là, je vais vous dire comment ils ont fait. Et ils ont pris leur bouclier et ils chantaient la fidélité de Dieu. Quel Dieu puissant nous avons, quel Dieu puissant nous avons. Son sang nous a rachetés, sa grâce nous a délivrés. Quel Dieu puissant nous avons. Mais si vous changez de bouclier, vous ne pouvez pas chanter ce chant. Parce que le bouclier des reins n'a pas de guerre, n'a pas d'histoire à raconter. Peut-être que votre bouclier est sale, peut-être qu'il est abîmé, mais ça porte une histoire. Que Dieu vous bénisse.